Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Okapi Service. C'est pour nous un plaisir de vous rendre service et de vous retrouver ce matin, chers auditeurs, au programme Comment prévenir les crises répétitives de malaria. On en parle avec Dr Didier Dassigua, chef des divisions chargées de partenariat au programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et bon début de semaine.
Merci à vous aussi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout à l'heure. Le conseil du jour, vous avez l'habitude de grincer les dents et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette manie. Des conseils pratiques tout à l'heure avec Joël Bofengo. Kinshasa, l'insalubrité bat son plein dans certains quartiers de la ville. Emmanuel Biéhi, directeur général de la régie d'assainissement et des voiries publiques pour la ville, sera notre invité. Le Centre pour la promotion et éducation des communautés de base, CPECO, c'est l'ONG que nous présente aujourd'hui J.R. Lungembo. Perte de mémoire, comment y remédier? Vous avez l'habitude d'oublier souvent les choses. Vous n'arrivez pas à fixer les souvenirs. Vous perdez facilement les informations reçues. Eh bien, Valentin Tungwa, psychologue, nous en parle dans Capi Service. Le rendez-vous de l'emploi avec Pamela Mounazo. Comment produire un bon reportage d'investigation? On en parle à Matadi avec Guy Roger Nyampala. Majoration des factures de la régie des eaux à Kisangani. Voilà, Sadala Mangondé, directeur provincial de la régie des eaux, nous en dira plus. Voilà, ainsi présenté le menu de Capi Service de ces jours. Vous voulez participer, composez le 080-1-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Toute l'équipe est en place et vous dit merci pour votre fidélité. Sylvain Matundu à la technique, Joël Bofengo à la réalisation, Marcel Ngumbumbala Keba coordonne ce programme. Au micro, jeudi Daniel Kachama sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute du magazine Okapi Service et bon début de semaine.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Bien, vous savez, la malaria tue. Hein. En RDC, selon le programme national de lutte contre le paludisme, cette maladie touche surtout les enfants des moins de 5 ans et les femmes enceintes. Quels sont les moyens de lutte contre la malaria et quel est le traitement approprié, docteur Didier Dassigua?
Bonjour d'abord.
Oui.
Oui. Pour ce qui est du traitement de la malaria, actuellement, pour ce qui est du paludisme simple, il faut administrer, après diagnostic bien entendu, avec un test de diagnostic rapide. Dès que la malaria est confirmée, il faudra administrer au malade la combinaison amodiaquine plus artésunate.
Oui, on y revient. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on assiste à des crises répétitives de malaria? Une personne qui a souffert après quelques temps, c'est encore la malaria. Après quelques temps, c'est encore la malaria. Qu'est-ce qui serait à la base de ça?
En fait, effectivement, il y a des études menées par la Banque mondiale il y a quelques années qui ont montré que un enfant congolais fait en moyenne par an 6 à 10 épisodes de malaria.
C'est quand même beaucoup, hein?
C'est beaucoup, effectivement. Mais il faudra, effectivement, pour éviter ces crises à répétition, mettre en place des mesures préventives. C'est notamment si cet enfant dort chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, vous verrez que l'enfant fera moins de crises par an. Ce sera au lieu de 6 à 10 épisodes de malaria, il pourra faire peut-être un seul épisode de malaria.
Et la malaria, c'est quoi et comment se manifeste-t-elle?
En fait, la malaria, c'est une maladie parasitaire causée par le parasite qu'on appelle Plasmodium. Et ici, c'est généralement le Plasmodium falciparum. Et la malaria se manifeste généralement par la fièvre. C'est le symptôme majeur, c'est la fièvre. Mmh. Bien sûr, qui est accompagné de courbatures, des maux de tête, de vomissements, etc.
Mais on dit souvent que ce sont les moustiques qui nous piquent tous les jours, qui transmettent la maladie.
Oui, oui. La coupable, c'est l'anophèle femelle. Oui. C'est elle, la femelle qui, en fait, en voulant maturer ses œufs, parce qu'il doit prendre du sang Il doit piquer pour avoir du sang et en ce moment-là, peut transmettre, si cette anophèle femelle est infectée par le parasite, en ce moment-là, il le transmet à l'homme. Donc, il pique un homme infecté et le transmet à l'homme non infecté. Ainsi, il transmet la malaria.
Et souvent, on entend parler malaria 1+, 2+, je crois que ça peut aller même à 3 ou plus.
Exactement.
Et c'est quoi quelle est la différence entre ces différents types de maladies et
exactement, c'est que en fait, quand la personne a des parasites dans son sang et qu'on fait une goutte épaisse, et on regarde au microscope, ce qu'on appelle les champs microscopiques, et donc c'est selon la quantité de parasites qui est observée au microscope qu'on peut dire, s'il y en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à 3+. Oui, donc le plus, c'est selon la quantité de parasites qu'on retrouve chez la personne infectée.
Mais on dit souvent que la 1+, c'est résistant, hein, ça résiste aux produits.
Oui, en fait, effectivement, dans la rue, effectivement, on dit que
c'est ce qu'on entend.
Il y a toujours un plus qui reste. En fait, il faut toujours, au fait, aussi différencier la malaria infestation et la malaria maladie, quoi. Ça veut dire que vous et moi, je dis, vous êtes là, on peut vous faire une goutte épaisse et voir qu'elle est positive sans que vous soyez malade, parce que nous sommes dans un pays endémique. Et que la plupart des gens ont le parasite, même sans être malade. Donc, la personne peut être bien portante et
mais
avoir la croix. Oui, c'est ce qu'on appelle l'infestation. Donc, on peut faire une goutte épaisse ou un examen de sang de routine. Et en faisant l'analyse au IM sang, on trouve que la personne a une croix, par exemple, sans être malade.
Et donc, qu'est-ce qui explique cela?
Oui, ça veut dire qu'il faut un seuil. Il faut un seuil de quantité de parasites pour que la personne soit malade vraiment et ait des manifestations, des symptômes de la maladie.
Voilà. Donc, vous avez des problèmes par rapport à la malaria, des crises répétitives. N'hésitez pas à appeler nous au 081-893-94. Alors, si la maladie résiste souvent, il y a des crises, c'est que le comment vous appelez ça?
Le plasmodium.
Oui, un plus là résiste aux produits qui sont administrés.
Oui, en fait, je pense qu'il faut y aller par étapes. Ça veut dire que, en tant que médecin, je suis médecin.
Oui.
Y a quelqu'un qui vient, qui fait sa malaria. Je pose le diagnostic, je soigne. Je lui prescris le médicament. Généralement, ici chez nous, on prescrit le médicament. Le malade va chercher son produit à la pharmacie. Il prend le produit. Donc, il y a deux ou trois choses qu'il faut voir pour être sûr de la résistance. La première des choses, c'est rassurer que le médicament que la personne a pris, c'est un bon médicament. Ça veut dire qu'il a le principe actif qu'il faut en qualité et en teneur, en quantité, quoi, si vous voulez. La deuxième chose qu'il faut vérifier, est-ce que la personne a pris le médicament comme il se doit. Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne la combinaison amodiaquine-artésunate, il a pris tous les comprimés prescrits et journalièrement, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a certains malades qui sont paresseux. Dès qu'il prend le produit, il sent que ça va, il n'y a plus de fièvre, c'est fini, il arrête.
Il a un peu plus de troubles, il arrête.
Oui.
Et donc, il faut se rassurer que la personne a pris le médicament, ce qu'on appelle vraiment la posologie. Il l'a prise comme il faut. Et la troisième des choses, maintenant, c'est rassurer, après avoir pris le médicament, si les troubles qui continuent sont effectivement dus au paludisme. Donc, faire une goutte épaisse de contrôle. En ce moment-là, si la goutte épaisse reste positive, en ce moment-là, on peut parler de l'échec thérapeutique. C'est-à-dire qu'on commence à parler un peu de la résistance. En ce moment-là, c'est d'abord l'échec thérapeutique. Maintenant, pour ce qui est de la résistance vraie, en ce moment-là, il faut faire vraiment des études qui peuvent prendre 14 jours, 21 jours ou 28 jours pour être sûr vraiment de la résistance. Et ça s'est fait chez les enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas d'immunité, quoi. Une bonne immunité. Parce que, en fait, chez un adulte, quand on lui donne le médicament, il y a l'action du médicament et l'action de l'immunité.
Oui.
Alors que chez les enfants, ils n'ont pas vraiment une grande action de l'immunité, même si l'immunité commence à venir au fur et à mesure. C'est en ce moment-là, on suit ce qu'on appelle la clearance, donc le nettoyage du sang, des parasites qu'il y a. Et donc, on administre le médicament aujourd'hui et on suit les 3 jours, on administre le médicament durant 3 jours et on voit comment
la situation va évoluer
jusqu'au 14e jour.
Voilà. Oui. Vous savez, docteur, il y a certains auditeurs qui appellent pour poser des questions. Il y a par exemple Serge qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Serge. Serge, bonjour. Serge, vous êtes en ligne depuis Mbandaka?
Oui, je suis en ligne, je dis Daniel Kachama.
Oui, bonjour, quelle est votre question?
Oui, je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et aux docteurs qui ont votre studio par ça. J'ai une préoccupation majeure. Mon frère a été né en Bangui. De là, il tombait souvent malade, la malaria le faisait souvent rage. Et quand il allait à l'hôpital, on le prescrivait la quinine. Dès que mon frère a quitté Bangui jusqu'ici, on le prescrit d'autres médicaments, mais il ne cesse jamais de tomber malade pour la malaria. Je ne sais pas. Cela est dit à quoi? De là, on le prescrivait la quinine, mais de chez nous, ici, il n'a pas la chloroquine. Et souvent, quand on lui donne seulement la chloroquine, il guérit. Mais quand on lui donne d'autres médicaments, il ne guérit pas. Cela est dit à quoi? Je voulais savoir.
Docteur Didier.
Ok, merci. Merci vraiment pour la question. Effectivement, comme je disais tout à l'heure là, une personne à qui on prescrit un médicament, bon, il prenait la quinine, il revient ici, on lui donne d'autres maladies et d'autres médicaments plutôt. Mmh. Il faut savoir que ici au Congo, nous avons une politique nationale en matière de médicaments. C'est que, d'abord, dire que la chloroquine ou la sulfadoxine pyrimétamine qu'on utilisait avant ont été pratiquement mis de côté pour le traitement, tout simplement parce qu'il y a des taux de résistance assez élevés à ces médicaments-là. Et fort des recommandations de l'OMS et des différentes études menées déjà dans le pays, nous avons trouvé que c'est une combinaison à base des dérivés d'artémisinine, hein, comme la combinaison amodiaquine-artésionate, qui sont les médicaments les plus efficaces. Ils ont été testés dans le pays et ils ont prouvé leurs efficacités. Et lors d'un forum de consensus, avec les différents spécialistes, les différents scientifiques, il a été adopté comme médicament de première intention pour soigner le paludisme simple. Et donc, pour le cas de ton frère, il faut d'abord se rassurer que, avant de prendre le médicament, si réellement il a les parasites, donc le Plasmodium falciparum, est-ce que c'est celui-là? On va lui donner le médicament et 3 jours après, s'il ne guérit pas, il faudra refaire la goutte épaisse. Et si on refait vraiment la goutte épaisse et qu'on retrouve encore les parasites dans son sang, en ce moment-là, c'est un échec thérapeutique. Et en cas d'échec thérapeutique, c'est pas qu'on est désarmé. Il y a des médicaments qui sont préconisés, c'est notamment la quinine, mais il faut l'associer à la clindamycine. À ce moment-là, on donne le produit au malade et en principe, il devra guérir. Il devra guérir, je dis bien. Oui.
Voilà, Dieudonné nous appelle depuis Maragui, puis Héritier est à Kinshasa. Vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à appeler nous déjà au 081-893-94.
La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeyangalula qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Mulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Comment prévenir les crises répétitives de la malaria? Docteur Didier Dassigua est notre invité. Il est chef de division chargé de partenariat au programme national de lutte contre le paludisme. Un auditeur en ligne depuis Maagui en Ituri. Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Votre question, Dieudonné.
C'est juste savoir si quelle différence existe entre le paludisme et la typhoïde.
Docteur Didier.
Oui, oui. Merci pour la question. C'est que le paludisme, c'est une maladie parasitaire causée par le Plasmodium falciparum, tandis que la fièvre typhoïde, c'est pas une parasitose. Donc c'est pas une maladie parasitaire. Donc il y a pas un parasite, il y a plutôt une bactérie.
Mmh. Oui. Quelle différence entre bactérie et parasite?
Oui, c'est en fait le on risque d'être un peu plus scientifique, c'est que la bactérie, je sais pas si...
Bon, en fait, c'est des microbes.
Oui, c'est des microbes, mais les autres sont des parasites. En fait, les parasites, peut-être qu'il faut que je donne un exemple pour qu'ils comprennent bien. Les parasites, C'est un peu comme l'ankylostome ou le reste, c'est des parasites, des bactéries, c'est des microbes qu'on retrouve, on peut retrouver sur une plaie, etc. etc. Donc
c'est différent.
C'est différent.
Ouais. Héritier est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour Héritier. Héritier n'est plus en ligne. Voilà, des questions de réaction, 081-890-6394. Mais on a remarqué à la cité, par exemple, les gens recourent beaucoup à l'automédication aujourd'hui. Dès qu'il a une personne a des courbatures, des maux de tête, et s'est dit directement, c'est la malaria, on va chercher la quinine et on commence à prendre. Est-ce qu'il y a, des méfaits à ça?
Oui,
il y a des risques.
Oui, tu as raison, c'est qu'effectivement, les gens, c'est l'automédication parce qu'ils évitent d'aller consulter tout simplement et que chacun sait que, ok, ce que je sens ici, c'est sûrement la malaria. Et ils vont effectivement prendre n'importe quel médicament. Effectivement, il y a un danger, il y a un danger réel, tout simplement parce que comme on venait d'expliquer à l'autre auditeur, en cas d'échec thérapeutique, nous recourons à la quinine.
Donc la quinine, c'est le produit,
oui,
le produit qu'on donne en dernier
recours. Il faut commencer par ce qui est accessible, enfin ce qui est petit, si vous voulez, avant d'aller à ce qui est grand. Et donc, parce que si nous arrivons dans ce pays, au Congo, à avoir des résistances à la quinine, nous aurons des problèmes. Tout simplement aussi parce que vous savez que le paludisme grave se soigne avec des perfusions de quinine. Si cette quinine là perd son efficacité, en cas de paludisme grave, nous serons quelque peu désarmés. Tout simplement parce que la recherche actuelle n'a pas encore trouvé vraiment des produits encore plus efficaces que la quinine. C'est vrai que maintenant, il y a encore beaucoup de combinaisons qui sont en train d'être mises au point. Mais actuellement, en cas de paludisme grave, nous soignons avec la quinine, que ce soit que la quinine en perfusion. Et donc, si les gens, avec la pression médicamenteuse, recourent plus à la quinine, il y aura à un certain moment une résistance qui va se développer à la quinine et nous serons quelque peu désarmés. Et donc, le conseil qu'il faut donner à toutes ces personnes qui vont dans les pharmacies comme ça, c'est peut-être d'abord de passer par le centre de santé. On commence par les médicaments accessibles, notamment
donc, il ne faut pas s'habituer à habituer les microbes à la quinine, sinon ils vont résister.
Exactement. C'est ainsi que vous voyez que la quinine, actuellement, on l'associe maintenant avec la clindamycine, tout simplement pour continuer à essayer de protéger cette quinine-là.
Florent nous appelle depuis Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jonathan. Comment ça va?
Oui, ça va bien. Merci, Florent. On vous écoute.
Ok, je suis en train de suivre l'émission. En fait, nous avons une préoccupation. Je vous parle ici en tant qu'infirmier.
Oui.
L'artésinat qui est recommandé actuellement comme le meilleur médicament, malheureusement, nous constatons que bon nombre de la population ne supporte pas cela. Et alors, nous voulons savoir qu'est-ce que le gouvernement est en train d'envisager. Le médicament a tellement d'effets secondaires que la population n'a plus envie de continuer à le prendre. Et même son prix est légèrement exorbitant par rapport à la chloroquine qui était à la portée de tout le monde. Tout le monde pouvait l'attraper facilement à un coût très réduit. Donc nous pouvons développer encore des résistances tout de suite là à l'artésinat compte tenu des effets secondaires et de son prix sur les marchés. Ensuite, il y a l'automédication aussi qui fait marcher à tout le monde. C'est tout le monde qui achète son médicament quand il veut, les soi-disant pharmaciens livrent les médicaments sans ordonnance. Donc nous sommes en train de courir un danger réel de résistance par rapport à l'artésinat. Que pense le gouvernement par rapport à cela?
Docteur Didier.
Merci Florent pour la question. Tout médicament, que ce soit la quinine, que ce soit n'importe quel antipaludique ou autre médicament, a toujours des effets secondaires. Et l'artésinat en soi, seul, n'a pas beaucoup d'effets secondaires, comme il est dit.
Oui.
C'est plutôt la modiaquine que les gens disent qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à la modiaquine.
Lesquels, par exemple, les démangeaisons?
Oui, les démangeaisons, surtout l'hypoglycémie qui donne des vertiges. La personne a l'impression de tomber, etc., de se sentir faible, etc. Mais je voudrais rassurer Florent pour dire que la combinaison actuelle qui est coformulée, ça veut dire les deux combinaisons sont mises dans une seule molécule, un seul comprimé, si vous voulez. Et la teneur en amodiaquine a été revue un peu à la baisse, hein, donc la teneur, mais le médicament reste efficace. Donc, sans perdre l'efficacité, le dosage a été revu à la baisse et ce médicament est combiné. En fait, il y a moins d'effets secondaires. Et il faut dire que le gouvernement est en train de... Il y a des formations des prestataires qui sont en cours actuellement. Mmh. Et on demande aux malades, parce que la plupart des antipyrétiques créent l'hypoglycémie, on demande aux malades de manger avant de prendre la combinaison.
La combinaison.
Donc c'est vraiment très très important. Nous voulons insister sur cet aspect-là et rassurer que la combinaison reste efficace. C'est vrai qu'elle coûte beaucoup, un peu plus cher que la chloroquine qui était une monothérapie. Là, vous avez deux médicaments qui sont mis ensemble et normalement, effectivement, ça coûte un peu plus cher, mais c'est la vie, c'est ça en fait, c'est ça le prix de la guérison.
Mais vous savez, vous demandez aux gens de manger, mais ce qui n'est pas le cas. Quand une personne est malade, souvent elle arrive et perd l'appétit. Dès qu'elle essaie de manger quelque chose, elle vomit.
Ouais. Ouais. Il suffit de prendre ne fût-ce que de l'eau sucrée ou quelque chose énergétique, parce que là, nous avons un problème d'hypoglycémie. Donc, il faut prendre quelque chose qui vous donne un peu plus d'énergie. Il suffit de prendre la bouillie avec un peu plus de sucre ou du thé où vous mettez un peu plus de sucre, etc. Et le malade, vous verrez qu'il va mieux supporter le médicament.
Oui. Héritier est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute, Héritier.
Oui, je vais poser la question au docteur.
Oui.
Moi, j'ai 24 ans.
Oui.
Et c'est par an, c'est 4 fois que je souffre toujours de la malaria. Et chaque fois que je suis malade, une fois que je prends la quinine, donc il n'y a que la quinine qui fait que je sois guéri. D'autres médicaments tels que la modiaquine, l'artésinate, les facidox, surtout les médicaments en dose unique, donc ça ne marche pas. Et je ne sais pas, qu'est-ce que le docteur peut me dire afin que les statistiques puissent changer de 4 fois par an, d'abord chaque fois être malade comme ça, étant donné que je suis déjà grand, je ne suis pas un petit pour chaque fois de la malaria.
Oui, vous avez raison, docteur Didier.
Oui, merci, Héritier. En fait, Héritier, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut d'abord que tu mettes en place des mesures préventives. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour aller chercher le médicament. Et donc, il faut d'abord que tu dormes. Est-ce que tu as une moustiquaire? Si tu en as une, il faut dormir chaque nuit sous la moustiquaire, même s'il fait chaud.
Ben, on peut poser la question, Héritier. Est-ce que tu as une moustiquaire à imprégner?
Oui, j'ai une moustiquaire. Mais ce n'est pas imprégné, mais c'est quand même une moustiquaire.
D'accord. Oui. Donc, il faut dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Et n'oublie pas les mesures globales d'assainissement et d'aménagement de l'habitat. Ça veut dire qu'il faut mettre des treillis aux fenêtres. Il faut boucher des trous s'il y a des trous pour que les moustiques n'entrent pas dans la maison. Dormir sous la moustiquaire imprégnée chaque nuit. Des petites mesures d'assainissement autour de ta personne.
Utiliser les insecticides.
Oui, on peut utiliser les insecticides, mais l'essentiel, c'est que il faut, parce que les insecticides en soi coûtent cher.
Et certains sont plus efficaces, hein.
Exactement.
Ça coûte cher. Ils font juste endormir les moustiques et puis ils se réveillent plus tard.
Oui, même les moustiques mouraient. Donc, il faut acheter la bombe insecticide. Oui. Elle coûte assez cher et ça va coûter cher à Héritier, je suppose. Donc, s'il a une moustiquaire imprégnée d'insecticide et il dort chaque nuit sous la moustiquaire, déjà, il verra, il n'a qu'à faire l'expérience.
Mais les moustiques vous piquent parfois alors que vous regardez la télé, vous faites autre chose, ils vous piquent entre-temps. C'est pas seulement là, quand vous dormez.
Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, je voulais ici rassurer aussi la population. C'est que effectivement, les gens disent que okay, la moustiquaire, c'est la nuit quand les gens dorment. Je voudrais aussi dire ici que les études qui ont été menées ici même à Kinshasa ont montré que on a dit l'incriminé, c'est l'anophèle. La coupable, c'est l'anophèle femelle, le moustique anophèle femelle. Et donc, cet anophèle femelle a son activité, à partir de 22h, 23h. C'est en ce moment, les moustiques qui nous piquent chaque nuit à 18h, généralement, c'est les culex.
Qui ne
transmettent pas la malaria. Et donc, c'est pour ça que nous voulons insister ici. Que à partir sûrement de 22h, 23h, surtout pour les enfants qui sont au bas âge, à sa bas âge, à ce moment-là, ils doivent aller dormir, mettez-les sous la moustiquaire. Ceux qui font plus des crises.
Voilà, Dodola nous appelle de Chikapa au Kasaï occidental. Bonjour, Dodola.
Oui, bonjour Radio Kapi, bonjour docteur Didier.
Bonjour.
Allez-y, Dodola.
Oui, j'interviens en qualité de record de formation.
Oui.
Je voudrais savoir que le docteur nous dise un peu pourquoi le taux de la malaria est plus élevé au Congo. Ça, c'est un.
J'ai pas bien suivi.
Pourquoi le taux de la malaria est élevé au Congo?
Ah, ok.
Oui, deux, je disais, vous nous dites que la combinaison artisanat-tamodiakine, c'est celle qui est plus efficace. Mais à ma carrière, elle est communautaire, bien formée, bien sûr. J'ai pris ces produits, j'ai failli mourir. C'est un produit qui affaiblit beaucoup. Cela est dit à quoi? Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre là-dessus pour ces produits?
Merci Dodola. Il y a également Kasongo en ligne depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Kasongo.
Oui, bonjour. Bon, ma question est presque comme la question précédente de l'été de Kinshasa.
Oui.
Et j'ai aujourd'hui presque une quarantaine d'années. Mais chaque fois que je souffre de la malaria, seulement la quinine seulement me guérit. Mais ce que j'ai remarqué, que ce n'est que la quinine fabriquée au Congo ici, chez Pharmakina Bukavu. Toutes les autres quinines, des Belges, tout ça, n'arrivent pas à me guérir. Une fois, je suis tombé malade en cours de route, on m'a donné d'autres quinines là, ça n'a pas suffi. Bon, je suis en train de remarquer que même ma fille qui a maintenant 3 ans, si elle tombe malade, tout ce qu'on prescrit là ne suffit pas, il n'y a que la quinine aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir avec la quinine qui est devenue maintenant habituelle et ce n'est que ça qui nous guérit.
Merci Kassongo. Docteur Didier Dassigua.
Ok, je commence peut-être par la dernière question par rapport à la quinine.
Oui.
Vraiment, il faudra que les auditeurs retiennent que la quinine, effectivement, elle est efficace. Donc, je ne suis pas étonné qu'ils guérissent quand on donne la quinine. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que il y a un problème de qualité des médicaments qui circulent dans ce pays. Que ce soit, comme il a dit, la quinine des Belges, en fait, la plupart des produits, il y a un problème de qualité parce qu'il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent aussi dans ce pays. Et en soi, pour ce qui est des antipaludiques, parce que nous parlons ici du paludisme, le gouvernement est en train de mettre en place, a fait des commandes, ce qu'on appelle des kits mini-lab, des mini-laboratoires, c'est des petits kits comme ça, qui permettront à l'inspection des pharmaciens, etc., de contrôler la qualité des médicaments qui circulent. Comme j'avais dit au départ, c'est que quand il y a un problème d'échec thérapeutique, si on veut dire, si on veut en parler, c'est qu'il faut d'abord voir quelle est la qualité du médicament. Est-ce que le médicament a toute la qualité qu'il faut pour soigner le malade?
Alors, pour son cas, il dit, est-ce qu'il faut toujours utiliser la quinine ou,
Oui.
Parce que c'est le dernier produit qu'on donne en cas de résistance. Maintenant, les gens s'habituent à prendre la quinine.
Effectivement, c'est une pratique dangereuse, comme j'avais dit tout à l'heure là. Parce que il faut d'abord que la personne prenne un autre médicament. Si ce médicament, enfin la combinaison amodiaquine artégenate,
si ça ne marche pas,
à ce moment-là, on recourt à la quinine.
Oui, mais Dodo Lachikapa a dit pourquoi les taux. Il a utilisé cette combinaison et il était affaibli.
Il a failli mourir.
Vous avez suivi.
Ok, c'est comme on avait dit. Parmi les effets secondaires des antipaludiques, il y a l'hypoglycémie. C'est vraiment très important. Vraiment, cette question me permet vraiment d'insister encore une fois. C'est que quand vous prenez un antipaludique, même si c'est la quinine en soi, parce que vous savez que la quinine aussi a
des bouches, les oreilles, etc. Souvent, ouais.
Mais il y a aussi l'hypoglycémie derrière. Donc il faut vraiment que
l'hypoglycémie, c'est-à-dire.
C'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Donc vous voyez, quelqu'un n'a plus d'énergie parce que c'est le sucre qui donne l'énergie au corps humain.
Okay.
Et donc le taux de sucre baisse.
Et la personne
s'affaiblit. Elle a effectivement l'impression de mourir. Parce que la diminution de la glycémie est très, très forte. Et donc, il faut bien manger. Il faut manger. Si vous n'avez pas d'appétit, prenez un boisson sucré ou un truc comme ça.
Oui.
Prenez et vous verrez que vous allez facilement supporter la combinaison.
Voilà, pour terminer, pourquoi le taux de la malaria, de malaria est élevé au Congo? C'est la question de Dodo Lachikapa.
Oui, la RDC est compte tenu de sa végétation, de son climat, climat chaud, végétation équatoriale, tropicale, etc., fait partie des pays endémiques du paludisme. Parce que à ce moment-là, le moustique, il trouve un écosystème très favorable pour se développer.
Oui.
Et effectivement, quand il y a des pics, ils piquent et ils transmettent la malaria. Donc, nous sommes dans un pays endémique, mais n'empêche que l'enquête mix qui a été diligentée par l'Institut national des statistiques et l'UNICEF a montré que quand même nous avons quand même baissé quelque part le taux de fièvre, parce que au fait, la fièvre est généralement liée au palu. En 2001, on était à 47%, et là, ça a sensiblement baissé. On est autour de 27%, et donc, vous voyez que avec les mesures préventives, avec le, oui, le soin, on peut arriver à baisser le
donc
taux de paludisme.
Donc pour prévenir cela, il faut faire des examens, aller faire des examens après chaque 3 mois, 6 mois.
Non.
Même si on n'est pas malade, bah juste un contrôle. Hein.
Non, non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Quand on tombe malade, on va juste à un centre de santé, on vous diagnostique, on vous soigne.
Voilà, docteur Didier Dassigua, chef de division chargé de partenariat au Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Merci et bon début de week-end. Bon début de la semaine.
Ok, merci à Radio Capi et aux auditeurs.